Bonsoir, comment allez-vous? Il y a une fonction du corps humain, enfin du corps mammifère je pense, complètement naturelle qu'on ne peut ni réprimer ni provoquer. Elle peut nous mettre dans l'embarras quand on n'est pas seul. Je précise qu'elle touche aussi bien les filles que les garçons. Je ne sais pas pourquoi cette manifestation, pas toujours sonore, de notre corps est mal vue. Mal vue au point que la bonne éducation nous demande de la cacher. Quand ça me prend à la radio, surtout en studio, devant un invité, je suis mortifiée. J'essaie de détourner son attention par tous les moyens. Je prie, j'implore pour qu'il ne me surprenne pas. Si j'ai été grillée, je me demande s'il vaut mieux faire comme si de rien n'était ou bien m'excuser et fournir une explication. Le problème avec cette manifestation, c'est qu'elle donne à penser quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Elle sème la confusion. On dit que le corps ne ment pas. Colette disait « mon corps est plus intelligent que moi ». Eh bien moi, quand je fais ça, mon corps ment. À moins que ce ne soit la raison qui se trompe en l'interprétant comme le signe de l'ennui.
Bonjour, je m'appelle Enora, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir pourquoi on bâille. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir pourquoi et comment on bâille. Merci, au revoir.
Noémie et Honora, nous avons proposé vos questions à un médecin spécialiste du bâillement, Olivier Waluzinski. Alors, pouvez-vous répondre à Noémie et Honora?
C'est difficile de répondre puisqu'actuellement, il n'y a pas de consensus scientifique, ce qui est quand même curieux puisque voilà un comportement qui nous touche tous les jours, toute la vie. Et personne n'est d'accord pour attribuer une finalité précise à ce comportement. Moi, je me suis passionné pour la question parce que, en 1978, j'ai eu en consultation un homme de 30 ans qui venait me voir parce qu'il bâillait environ une fois par minute depuis son lever jusqu'à son coucher. Et à l'époque, je ne savais strictement rien sur le sujet. On ne m'en avait jamais parlé pendant mes études de médecine. Et donc, j'ai commencé à chercher et je suis resté dans le bâillement depuis. Et donc, il y a de multiples théories saugrenues, comme par exemple de vider nos amygdales en comprimant les muscles du cou, de presser les glandes thyroïdes, qui ne sont pas vraiment pressées pendant qu'on bâille. Et puis, il y a une erreur très souvent répétée depuis le XVIIIe siècle, qui consiste à dire que ça oxygène le cerveau, ce qui est faux. Puisque si vraiment ça devait améliorer l'oxygénation, le coureur de marathon devrait bâiller à chaque foulée. Or, quand on fait des efforts, on ne bâille pas pour améliorer une oxygénation. Ça a été démontré d'une façon scientifique. On a mesuré ce qu'on appelle les gaz du sang, c'est-à-dire la concentration d'oxygène, de gaz carbonique, aussi bien dans le sang que dans l'air inspiré-expiré. Et moi qui ai un appareil qui me permet de faire des enregistrements, on voit la saturation en oxygène baisser un petit peu tout de suite après un bâillement. Donc, il n'y a aucune oxygénation améliorée par le bâillement.
Donc les pistes que vous venez d'évoquer sont à éliminer.
Il y a une équipe américaine qui veut nous faire croire que le bâillement refroidirait le cerveau. Ça me paraît une idée saugrenue parce que notre corps est à une température constante et en particulier notre cerveau, il ne chauffe pas et les seuls mécanismes physiologiques connus qui existent sont des mécanismes quand il y a de la fièvre.
Mais ce n'est en aucun cas le bâillement qui va solutionner ça.
D'autre part, le bâillement existe chez tous les vertébrés, c'est-à-dire que même les reptiles, les serpents, les tortues bâillent. Et c'est des animaux qu'on appelle des poéchylothermes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de réguler leur température. Et donc, la seule explication à laquelle moi je me rattache, c'est l'amélioration de notre vigilance. Parce qu'en fait, avec l'évolution des espèces, on a dans notre cerveau des structures qui se sont adaptées au progrès de nos performances. Et nous avons ce que nous appelons le cerveau reptilien, c'est-à-dire le tronc cérébral, là où sont les infrastructures qui nous permettent de commander de façon automatique nos fonctions vitales, comme la ventilation, la régulation de la température de notre corps, l'équilibre de l'acide et des bases. Toutes ces choses se font de façon automatique. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie.
Et le bâillement en fait partie parce qu'on ne le commande pas.
Le bâillement est un comportement totalement involontaire qui s'impose à nous et qui stimule la vigilance. C'est pour ça que l'on bâille quand on se réveille, souvent associé à des mouvements d'étirement du tronc, l'ensemble s'appelant une pendiculation. Voilà. Quand vous vous étirez le matin au réveil, vous vous pendiculez.
Et on bâille.
Et on bâille. Et ça fait un petit moment de plaisir et d'agrément. Et si vous regardez nos animaux domestiques autour de nous, le chat, le chien, quand ils sortent de leur période de sommeil, s'étirent et s'arc-boutent. Et je pense que le bâillement n'est qu'un étirement, qu'une pendiculation localisée qui implique les muscles du cou et de la face, et puis le diaphragme qui entraîne une ample inspiration.
C'est juste que quand on bâille, on a envie
de s'étirer.
Oui.
Et puis on bâille le soir, en fin de journée, quand on est fatigué, pour lutter contre la pression de sommeil. Et tout de suite après, on est plus vigilant.
Pendiculons le matin, c'est excellent pour la santé. Et merci au docteur Olivier Waluzinski. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, Ève a demandé à Alexis Grus combien de temps on met pour apprendre un numéro à un cheval. Eva a demandé à Jeanne Siofachin pourquoi, dès qu'on nous fait un compliment, on se sent gêné. Et Sarah a demandé à Pierre Brice-Lebrun ce qu'est exactement, ce qu'on appelle exactement le délit de grivellerie. Mais tout de suite, nous retrouvons une habituée des Petits Bateaux que nous aimons beaucoup, le docteur. Docteur en botanique, en physiologie végétale exactement, docteur en physiologie végétale, Catherine Laine.
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans et je voudrais savoir comment se forment les graines de gazon. Merci, au revoir.
Bonsoir Lucas, graines de gazon, Catherine Laine, chercheur en physiologie végétale, maître de conférence à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial les graines de gazon, puisque Lucas en parle à votre avis?
Alors à mon avis, Lucas en parle parce qu'on ne voit pas de fleurs sur un gazon en général. Donc il a raison, il y a bien des graines formées par le gazon, mais souvent on ne voit pas les fleurs parce qu'elles sont très discrètes et que, en plus, on tond la pelouse.
On les coupe avant qu'elles n'arrivent.
Oui, donc souvent on ne les voit pas. Si on les laisse pousser, si on les laisse un petit peu monter, on peut, à quatre pattes, regarder dans le gazon et voir effectivement des épis, des petits épis discrets, verdâtres ou jaunâtres, qui contiennent des fleurs. Un petit peu comme un épi de blé, si vous voulez, mais avant d'avoir des grains.
Alors, c'est violent ce qu'on lui fait au gazon, en fait.
On le coupe, mais il va repousser par la base, de toute façon. Donc, il meurt pas.
Donc, alors, les graines de gazon, comment se forment-elles, demande Lucas.
Donc, elles vont se former à l'intérieur de ces fleurs, dans les épis dont je parlais. Donc, ce sont des fleurs très discrètes, qui n'attirent pas de pollinisateurs, d'insectes, mais qui vont être pollinisées par le vent. Et à l'intérieur de ces fleurs, on va trouver des organes sexuels, mâles et femelles, et la rencontre de cellules sexuelles mâles et femelles donnera naissance à une cellule œuf à l'intérieur d'une graine. Donc chacune des fleurs de l'épi va se transformer en un grain, j'ai pas dit une graine, j'ai bien dit un grain, c'est le fruit, c'est-à-dire le résultat de la transformation de la fleur après fécondation.
D'accord.
Et à l'intérieur de ce grain, il y a la graine, on n'arrive pas à la séparer d'ailleurs de ce grain, mais c'est tout petit, et à l'intérieur de cette graine, on va trouver la future plante, le bébé plante, avec des réserves qui ont été accumulées au moment de la fécondation, après la fécondation, pour que cette graine puisse germer ensuite dans la terre.
Mais si je comprends bien, Catherine Laine, pour que le gazon se ressème, il ne faut pas trop le tondre, sinon on enlève les graines et tout.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait laisser monter en graines, comme on dit, et à ce moment-là, les plantes se ressèmeraient de manière naturelle. Oui. Alors, mais avec toutes les mauvaises herbes, entre guillemets, qui viendraient égayer le gazon.
Donc monter en graines. Alors je pense au champ de blé. Si on ne ramassait pas le blé, imaginons, si on le laisse comme ça, il se ressème alors.
Dans le passé, c'était vrai. C'est-à-dire que l'agriculteur récoltait son champ de blé et gardait une part de sa récolte pour ressemer l'année suivante. Maintenant, les semenciers modernes proposent aux agriculteurs des semences tellement performantes que c'est plus rentable de ressemer des semences issues des semenciers tous les ans.
Et on mange son blé et on en sème un autre. On mange celui qu'on a récolté et on en sème un autre.
Voilà, c'est le monde moderne. Mais c'est triste.
Catherine Laine a écrit « Dans la peau d'une plante » édité chez Belin, 70 questions impertinentes sur la vie cachée des plantes.
Une promesse à la fois, des caresses que l'on retiendra, les mots de velours confiés au silence. Avant, on se... Oh, prenons le temps. celui qu'il nous faut. Prenons le temps qu'il faut pour laisser passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau. On trouvera la vie qu'il nous faut jusqu'au dernier bateau. Passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau. Passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau.
Les cours d'eau, c'était la chanteuse Pomme. Pomme qui a révélé il y a à peu près un mois à Mediapart que de ses 15 ans à ses 17 ans, elle a 24 ans actuellement Pomme, que de ses 15 ans à ses 17 ans, elle avait subi des violences dans le cadre de l'industrie du disque. Elle avait été harcelée sexuellement et moralement. Elle a parlé pour que, dit-elle, la honte et la peur changent de camp.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions, des enfants petits et grands, et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 12 ans et je voudrais savoir qu'est-ce que le délit de grivellerie. Merci.
Bonsoir Sarah, le délit de grivellerie. Pierre Brice Lebrun, alors nous faisons appel à vos deux compétences, enfin vous en avez certainement beaucoup d'autres, mais vos deux compétences officielles. Vous êtes enseignant en droit dans le secteur social et médico-social, vous avez écrit des livres de droit dont nous parlerons tout à l'heure, et vous êtes également un écrivain épicurieux, comme dit François-Régis Gaudry, c'est-à-dire que vous êtes gastronome. Donc le droit et la gourmandise, le droit et l'alimentation, le droit et la nourriture, et la grivellerie, demande Sarah.
Eh bien, la grivellerie, ça tombe bien parce qu'on va parler de droit et d'alimentation, puisqu'il existe une grivellerie d'aliments qu'on appelle aussi resto basket. Donc d'abord tu manges, après tu cours. Et c'est ça en fait la grivellerie, c'est un délit qui est prévu par le code pénal, c'est l'article 313-5, passible de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Ah oui, c'est un vrai délit. Et c'est un délit qu'on appelle voisin de l'escroquerie, parce que c'est pas vraiment une escroquerie. Pour qu'il y ait escroquerie, il faut une manœuvre frauduleuse, faut arnaquer quelqu'un. C'est pas vraiment du vol, parce qu'il n'y a pas de soustraction. C'est-à-dire que je vais au restaurant, je mange, on me sert avec un grand sourire, et quand j'ai fini de manger, je pars en courant. Donc c'est pas vraiment un vol.
Pas de soustraction, quand vous le mettez dans votre bouche, vous le soustrayez, parce que après ça disparaît de votre bouche.
Oui, mais au moment où l'acte est commis, quand je mange, je ne vole rien, puisqu'on me le sert spontanément.
D'accord.
On me le donne. Ah oui, c'est subtil le droit. Et puis c'est pas non plus un abus de confiance, puisqu'il n'y a pas eu de contrat entre deux personnes. Et donc la grivellerie, en fait, elle réunit deux infractions différentes. D'un côté la filouterie, et de l'autre la resquille. La resquille, c'est la moins grave, mais c'est quand même un délit. C'est prendre le train sans billet, ou voyager en première classe quand on a un billet de seconde. C'est ne pas payer le péage sur l'autoroute, ne pas payer le parc-mètre, le stationnement, le parking. Ou mentir sur son âge, par exemple, pour bénéficier d'un tarif réduit au cinéma, au musée, ou arriver à genoux devant la caisse pour dire « moi j'ai 10 ans ». Par contre, la filouterie, c'est beaucoup plus grave. On va avoir un certain nombre de filouteries différentes. Il y a une filouterie d'aliments, donc c'est le fameux resto basket. Il y a aussi une filouterie de taxi et de voitures de place, qui date de 1926. Donc se faire emmener par un taxi et dire « je suis désolé, je peux pas payer la course ». Il y a une filouterie de logement, donc c'est souvent à l'hôtel, je ne peux pas payer. Et une filouterie de carburant et de lubrifiant, qui est ajoutée en 1966. C'est faire le plein et partir au plus vite. Voilà pour la grivellerie qui rassemble ces deux délits de filouterie et de resquille.
Vous avez dit, Pierre-Brice Lebrun, qu'on pouvait encourir une peine de 6 mois de prison pour grivellerie.
Oui, et de 7 500 € d'amende.
Dans la jurisprudence, il y a quelqu'un qui a fait 6 mois de tôle pour être parti sans payer ?
Dans la jurisprudence, je pense qu'il y a essentiellement des peines avec sursis, sauf quand il y a récidive. C'est-à-dire quand la personne, habituellement, fait le plein de sa voiture, ou va manger, ou va à l'hôtel sans payer. Je ne pense pas que les peines de prison ferme tombent très rapidement. En plus, 6 mois d'emprisonnement, c'est des peines qui peuvent être aménagées. Donc la personne, souvent même quand elle a une peine de prison ferme, reste à la maison avec un bracelet électronique ou un certain nombre de dispositions autres.
On va faire la vaisselle dans le restaurant, comme on disait.
Alors ça, ce serait sans que la justice intervienne, une espèce d'accord amiable. J'ai pas d'argent, bah vous ferez la vaisselle.
Ah oui, donc on fera la vaisselle, c'est un accord avec le patron.
Voilà, c'est ça.
Ce n'est pas une peine prononcée.
Non, ça ne pourra pas être une peine de réparation dans le cadre d'une médiation pénale. Mais ça, je ne pense pas que ça ait été fait. C'est dommage, d'ailleurs, ce serait peut-être très éducatif et très pédagogique.
Alors, côté gourmandise, Pierre-Brice Lebrun a écrit entre autres « Petit traité des pâtes » édité chez Sureau. Et côté droit, alors là c'est édité chez Duneau évidemment, Pierre-Brice Lebrun a écrit « La protection » entre autres « La protection de l'enfance ».
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi dès qu'on nous fait un compliment, on est gêné. Merci de me répondre.
Merci Emma pour cette question. S'il te plaît, aide-moi à vivre pour une nouvelle psychologie. C'est le titre de votre livre, Jeanne Siofachin, qui est édité chez Odile Jacob. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. C'est une question d'enfant, puisque c'est le principe de notre émission, et qu'Emma n'est pas bien vieille à la voix.
Mais j'ai l'impression que ça concerne tous les âges. Pourquoi dès qu'on nous fait un compliment, on est gêné?
Alors, c'est une question qui oblige à remarquer que d'une façon générale, et on voit bien avec cette question que dès l'enfance, mais comme vous le disiez, si justement ça continue à l'âge adulte et probablement toute la vie, on n'a pas trop appris à ressentir, reconnaître et exprimer nos émotions. Et que ça fait partie d'une éducation qui n'existe pas encore suffisamment sous nos latitudes. On apprend des tas de choses à l'école, de la vie, mais les émotions, ça reste encore quelque chose d'un peu tabou, d'un peu caché, dont finalement personne ne sait très bien que faire. On est gêné parce que quand quelqu'un nous fait un compliment, qu'on ait 5 ans ou qu'on ait 25 ans, qu'on ait 50 ans, eh bien ça vient toucher une émotion à l'intérieur de nous qui est la joie en réalité, c'est-à-dire que ça nous fait plaisir. Et la joie, c'est une émotion qui pétille, c'est-à-dire même au niveau du corps. La joie, ça déclenche dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. C'est un cocktail d'hormones qui nous fait du bien. Et donc ça pétille vraiment au sens, on le ressent, hein, on le sent dans son corps quand on est joyeux. Hein. Et on ne sait pas quoi faire de ça. En fait, quand on nous fait un compliment, en vrai, tu sais ce qu'on nous dit ? On nous dit « je t'aime ». Et quand on nous dit « je t'aime », eh ben, on est gêné parce qu'on ne sait plus quoi faire de quelque chose de si gentil, de si doux et qui nous fait tellement de bien. Alors, c'est un peu comme si on se défendait. On dit « oh, mais non, mais c'est rien, mais c'est normal ». Ou si on nous dit, je sais pas, ben, « oh, mais ils sont jolis, tes cheveux », ben, on va dire « oh, ben oui, mais les tiens aussi ouais. ». C'est-à-dire qu'on a du mal à rester connecté et centré sur nos propres émotions et simplement à dire un mot magique merci. Qui est pas juste un mot de politesse, qui est de dire merci, parce que merci ça veut dire du fond de mon cœur, eh bien je suis reliée à toi et je suis tellement heureux que tu aies pu me dire ça, merci, merci. Et quand on dit merci, ça fait tellement de bien à soi d'abord, et ça fait tellement de bien à l'autre qui du coup lui aussi se sent important et qui du coup lui aussi va se sentir joyeux. Donc c'est un double cadeau. Donc c'est très important d'apprendre et de s'entraîner à pouvoir vivre les compliments comme un petit éclat d'amour que l'autre nous donne à un moment donné.
C'était Jeanne sur Fachin qui répondait à Emma dans Les Petits Bateaux.
Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be.
C'était Eurythmics dans les petits bateaux. Et oui, ça rappelle leur boom à certains déjà. Rien que le mot boom, déjà, ça donne l'année.
Bonjour, je m'appelle Ève, j'ai mon troisième galop. Et j'aimerais bien savoir combien de temps on met pour apprendre un numéro à un cheval. Au revoir, merci.
Pour apprendre un numéro à un cheval, c'est du temps. C'est beaucoup de temps et c'est jamais acquis définitivement. C'est toujours une remise en question chaque jour. Par contre, il a une mémoire tellement extraordinaire que tout ce qu'on lui donne comme indication, il l'enregistre, et tout ce qu'il fait, il s'en rappelle. Et ça devient presque un handicap dans le travail, car le cheval devient un animal pratiquement routinier. Il faut savoir que les chevaux changent de numéro chaque année. Donc, à partir du moment où ils changent de numéro chaque année, ils ne s'installent pas dans une routine. Et ils sont beaucoup plus attentifs à ce que je leur demande. Pourquoi ? Parce que je ne fais jamais deux fois la même chose. Et quand j'arrive, par exemple, à voir les six chevaux, trois qui tournent la main gauche, trois qui tournent la main droite, se croiser, faire les pirouettes, avec une seule indication et une seule parole, pour moi, c'est des grands moments d'émotion aussi. Le cheval est un animal qu'il faut bien connaître. Quand on connaît bien les animaux, on sait apprécier et on sait éliminer le risque par la connaissance. Mais c'est pas un animal qu'il faut pas plaisanter avec, d'abord parce que les rapports de force sont complètement disproportionnés entre l'homme et l'animal. Et le cheval le sent, ça. Quand il a des réactions aussi vives, c'est qu'il sait qu'il peut nous dominer.
Et il travaille jusqu'à quel âge ?
Ben, il travaille jusqu'à temps qu'il soit présentable. Et j'ai dans l'écurie, j'ai une jument qui a 25 ans, une boulonnaise, et tant qu'elle est... c'est le travail quotidien qu'il fait. Hein. C'est la régularité dans le travail, c'est toujours un travail bien équilibré entre la main gauche et la main droite, parce que ce cercle de 13 mètres, il faut savoir qu'un cheval, il y a 50 cm de rayon de différence entre la jambe extérieure et les jambes intérieures. Donc il y a un développement plus important sur l'extérieur. Et si on n'a pas un travail régulier, main gauche, main droite, on risque d'avoir des chevaux boiteux. Alors, tout ce qu'on lui apprend au départ, c'est quelque chose d'essentiel pour tout le reste de sa vie. Bien sûr, il faut obtenir sa confiance. Ça, c'est la première chose, mais ça, tous les gens de chevaux le savent. Il faut leur murmurer un petit peu à l'oreille. Et puis, il faut leur faire comprendre, par la récompense et par la voix, ce qui est bien et ce qui est mal.
Est-ce qu'il y a des chevaux avec qui vous n'y arrivez pas ?
Quand j'y arrive pas avec un cheval, c'est que je me suis trompé dans la discipline dans laquelle je voulais le diriger.
Ah, vous dites c'est Gruss qui s'est trompé, c'est pas le cheval qui n'est pas bon.
Non, parce que le cheval n'est pas prêt pour faire ce que je lui demande. Et bien souvent, avec un petit peu de recul et un peu plus de temps, j'arrive par un autre chemin à lui apprendre ce que j'ai envie de lui apprendre.
Vous dites qu'ils ont de la mémoire. Bon, on sait que les chevaux ont de la mémoire. Mais si, par exemple, vous faites un numéro que vous avez fait il y a 5 ans, si vous le reprenez maintenant, vous lui apprendrez vite ?
Oui, il apprendra très vite, à condition que moi je me souvienne bien de toutes les indications que je lui donnais il y a 5 ans. Et bien souvent, quand le cheval est pris comme ça au dépourvu, instantanément, c'est lui qui me montre à quelle distance je dois me tenir, quelle indication je dois lui faire... Parce qu'il réagit tout de suite et il attend. Il attend que je lui donne les indications qu'il a enregistrées il y a 5 ans.
Vous aviez reconnu la voix d'Alexis Gruss. Pas de spectacle Gruss cette année et ça nous manque. Pour approcher malgré tout les chevaux est paru cette semaine aux éditions Actes Sud, Le cheval, c'est l'avenir. Tout petit livre pamphlet de l'écrivain cavalier Jean-Louis Gouraud qui nous dit que la nature des relations entre l'homme et le cheval n'est pas une relation de maître à esclave, qu'elle peut être faite de réciprocité, de bienfaits mutuels, que le cheval peut aider l'homme, actuellement déconnecté du vivant, à renouer avec la nature. Pour aller plus loin, une autre cavalière, thérapeute cette fois, Peggy Reboul, a écrit chez Mama Édition Conscience animale au pluriel. Elle explique comment elle parvient à guérir les animaux et à guérir les humains grâce aux animaux. Si le cheval tient une grande place dans son récit, il y a aussi des chiens et des chats, leurs maîtres qu'elle préfère appeler leurs gardiens et leurs maîtres. Ce livre va en surprendre quelques-uns, tant il sort des sentiers battus. Vous pouvez l'aborder comme un livre de cuisine qui va des recettes les plus simples aux plus sophistiquées. Certaines sont indispensables, d'autres nous paraissent farfelues ou difficiles à réaliser. Prenez ce qui vous convient. Peggy Reboul, Conscience animale, édité chez Mama Édition. podcaster, podcaster les amis, c'est Petit Bateau par franceinter.fr. Eliane Girard, Stéphane Combe, Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, Fabrice Desmaz. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30.